Chapitre 7. Nouvelle vue d'un vieux manoir. Elle fut quelque temps sans penser à ce qu'elle faisait, ni où elle allait. La scène affligeante qu'elle venait de quitter, et l'homme déloyal avec lequel sa sœur était liée pour la vie, absorbait toutes ses facultés et navrait son cœur. En arrivant à Buckshot pour changer de chevaux, la nécessité de parler au nouveau postillon la rappela à elle-même. Et dans le doute si la démarche qu'elle faisait était bonne ou mauvaise, elle regrettait de n'avoir pas attendu la réponse d'Etherington. Eugénia avait cependant approuvé son voyage et elle considérait Eugénia comme un oracle. En arrivant au chemin de traverse qui conduit de Winchester à Clèves, lorsqu'elle se vit près d'un lieu si cher et pour le moment si redoutable, il lui sembla que ses chevaux avaient des ailes. Elle répéta 20 fois au postillon de ne point se presser, et il lui répondait toujours que les mauvais chemins suffisaient pour le forcer d'aller modestement. Elle tâchait d'adapter quelques plans de discours aux différentes occasions qui pourraient se présenter, mais c'était en vain. Rien ne lui venait dans l'esprit. Tantôt elle se figurait être aux pieds de sa mère, elle croyait baiser les mains de son père ou recevoir les tendres caresses de son oncle. Et un moment après, elle se voyait repoussée par eux tous. Mais tandis que les rêves de son imagination la calmaient et la déchiraient alternativement, elle aperçut l'entrée du parc. Elle fit arrêter la chaise. En traversant le parc, elle pouvait attirer l'attention et elle voulait consulter Lavinia avant que son arrivée fût connue. Elle résolut de traver à pied un sentier qui conduisait à une petite porte du derrière de la maison, d'où elle pouvait se glisser dans la chambre que sa sœur avait coutume d'occuper. Après avoir dit au postillon d'attendre, elle passa la petite porte du parc sans que le portier l'aperçût. Le jour commençait à tomber, personne ne parut et elle s'en félicitait. Quoique tremblante, elle marcha rapidement et atteignit bientôt la maison. Mais en arrivant à la petite porte par où elle comptait entrer, elle la trouva fermée. Elle n'osait se présenter à la porte de devant, dans la crainte de rencontrer quelqu'un de la famille dans le salon. Elle se rappela la fenêtre basse d'une chambre qu'on n'occupait que dans l'été. La manière d'ouvrir le ressort qui la fermait lui était connue, elle entra dans la maison. Marchant avec précaution et osant à peine respirer, elle traversa un long passage pour gagner l'escalier dérobé. Quoiqu'un peu surprise du profond silence qui régnait dans toute la maison, elle se félicitait de n'avoir point fait de rencontre. Elle continua d'avancer avec la même précaution, jetant à chaque pas des regards autour d'elle, mais en arrivant à la chambre à coucher de son oncle, où il fallait nécessairement passer, elle en vit la porte ouverte. Il était possible qu'il y fût. Elle n'eut pas le courage d'aller plus loin. Elle craignit qu'après les chocs qu'il avait soufferts, il ne fût trop faible pour supporter une surprise aussi imprévue. Elle fit le tour et entra par une grande chambre au pied de l'escalier qu'on nommait la chambre du billard. Elle résolut d'y attendre et d'observer quelque temps avant de passer outre. Bientôt, elle gagna doucement la fenêtre et parcourut des yeux le parc qui lui parut aussi lugubre que ses pensées. Elle n'y vit pas un seul des chevaux de son oncle. On n'entendait personne aller et venir. Elle n'aperçut pas même le chien de la cour qui rôdait ordinairement devant la maison. En se penchant un peu plus, elle examina les deux ailes du bâtiment. Tout y était aussi paisible, aussi inanimé. Partout, elle trouvait le même silence. Elle tourna ses regards sur la chambre d'Eugénia et en vit, sans étonnement, les volets fermés. Ceux de la chambre d'Indiana l'étaient aussi. « Comme tout est devenu triste !» se disait-elle. Enfin, elle aperçut aussi la sienne dans le même état. « Hélas ! » s'écria-t-elle, « mon pauvre oncle nous regarde toutes comme mortes pour lui !» Elle n'osait pas s'avancer pour examiner le salon où elle supposait la famille assemblée. Mais elle observa avec étonnement que les fenêtres de la bibliothèque étaient fermées, quoiqu'il ne fût pas encore l'heure de lire à la lumière. Et elle savait que le docteur Horborn, qui n'en sortait guère, ne pensait jamais à en demander que quand il n'y voyait plus. La crainte d'être surprise fit place au désir de rencontrer quelqu'un et elle retourna au passage où elle trouva le même silence. Se hasardant de passer devant la porte ouverte du salon, mais sans oser y regarder, elle gagna la chambre de Lavinia. Tout y était fermé, le lit défait, les matelas roulés, et il était évident qu'elle n'était plus habitée. Elle conclut que sa sœur était retournée à Essrington et elle ne savait à qui demander des conseils ou des informations. Elle ne craignait plus de rencontrer ses parents, car il était évident que Lavinia n'avait quitté Clèves que pour retourner avec eux. Après quelques instants de réflexion, elle résolut de se jeter aux genoux de son oncle, dont elle connaissait l'indulgence, mais de lui envoyer d'abord un billet pour lui éviter la première surprise. Elle retourna dans la salle basse avec l'intention de demander du papier et une plume au premier qu'elle rencontrerait. Ce ne pouvait être qu'un ami, à moins qu'un malheureux hasard ne lui envoyât Miss Margland, dont elle évita d'approcher la chambre. N'observant plus, toutefois, autant de précautions, elle s'arrêta près de l'appartement de son oncle. Le silence qui y régnait annonçait qu'il n'y était pas. Elle se hasarda d'y entrer. La chambre était dans le plus grand désordre et démeublée en partie. Rien n'était à sa place ordinaire. Plus de fusils au-dessus de la cheminée, plus de cannes dans les coins de la chambre, plus de coussins pour ses chiens auprès du feu. Enfin, son grand fauteuil avait disparu et le bois du lit était nu et totalement dégarni. Pétrifiée de ce triste spectacle, elle se jeta à genoux et fit, pour la conservation de son cher oncle, une prière fervente. Mais la terreur lui laissait à peine la force de se relever. Elle ne savait que devenir, ni que conjecturer. Enfin, le doute lui paraissant plus insupportable que la certitude, elle quitta cette chambre pour chercher quelques moyens d'information. Il était possible que toute la famille se fût retirée sur les derrières de la maison. Elle traversa le long passage où il commençait à faire obscur, les fenêtres étant hautes et étroites. C'était la première partie de la maison qu'on éclairait ordinairement. Mais il ne paraissait pas qu'on s'en occupât. Elle alla à la porte du concierge. Elle était fermée. Elle essaya en vain de l'ouvrir. Elle frappa doucement, appela par la serrure, mais point de réponse. Elle gagna insensiblement le salon et elle hésitait d'y entrer. Entraînée cependant, elle s'approcha de la porte et écouta. Pas une voix ne se fit entendre. C'était cependant la pièce où on se réunissait tous les soirs. Mais son oncle pouvait être endormi. Elle ne voulut point courir le risque de l'effrayer par sa présence, elle aima mieux gagner la pièce où se tenaient les domestiques. Quelle fut sa surprise de n'y trouver ni domestique, ni feu, ni lumière. Confondue et croyant presque rêver, elle résolut d'aller dans la chambre où l'on avait coutume de déjeuner et d'y sonner la cloche. Elle allait y entrer lorsqu'elle entendit dans le parc le bruit d'une voiture. La voiture avançait rapidement et Camilla, effrayée, jugea que ce ne pouvait être que sa mère. On arrêta à la porte et on sonna. Camilla, épouvantée, s'enferma dans la chambre où elle s'était retirée. Mais, voyant que personne ne venait ouvrir, quoi qu'on sonnât avec force, elle se décida à retourner dans la salle basse. Comme elle ouvrait la porte, elle aperçut à travers la serrure une faible lueur et entendit distinctement les pas de quelqu'un qui approchait. Elle se retira précipitamment. On ouvrit la porte et un homme s'informa d'une jeune dame qui venait d'arriver. « Il n'y a point ici de jeune dame, » répondit une voix qu'elle reconnut pour celle de Jacob. S'apercevant que c'était son postillon qui s'était lassé de l'attendre, elle s'aventura de s'écrier « Oh, Jacob, qu'est devenu mon oncle ?» Jacob, stupéfait, n'eut pas d'abord la force de lui répondre. Lorsqu'il fut un peu remis de sa surprise, « Miss Camilla, lui dit-il, quand vous saurez tout, cela vous fendra le cœur. Comment, vous êtes entrée dans la maison? Ça me passe, mais plût à Dieu que c'eût été plus tôt pour l'amour de mon pauvre maître. » Camilla attendait l'explication de cet horrible mystère avec autant de terreur que d'impatience. Elle dit au postillon de se reposer et elle passa dans la pièce voisine avec Jacob. Lorsqu'il eut fermé la porte, il voulut commencer une longue litanie de lamentations, mais Camilla s'écria presque en colère. « Jacob, en deux mots, où est mon oncle? Est-il en bonne santé? » « Mais oui, miss, en considérant que... » Et il entama sa relation, tandis que Camilla rendait à Dieu ses actions de grâce. Son attention fut réveillée douloureusement par les paroles suivantes. « Il est parti, Miss Camilla. Il est allé, Dieu sait tout. Il a quitté sa maison, renvoyé presque tous ses pauvres domestiques et ordonné de louer cette belle terre au premier qui se présentera. Il va, dit-il, se retirer dans quelque coin, jusqu'à ce qu'il ait économisé de quoi payer tout pour votre papa. Un coup de foudre qui l'aurait écrasé lui aurait paru mille fois préférable à cette affreuse information. Jacob essaya de la consoler, mais ces détails ne servirent qu'à augmenter ses angoisses. Du moment où Sir Hugues avait appris la détention de son frère, il avait commencé l'exécution de son plan rigoureux. Et quoique fort calmé par le prompt élargissement de M. Tyrold, il n'avait rien voulu changer à ses nouveaux arrangements, protestant qu'il n'aurait pas de repos dans cette vie jusqu'au moment où il pourrait acquitter toutes ses dettes et celles de son frère. Il avait lui-même, disait-il, causé tout ce désordre en dépensant annuellement tous ses revenus, tandis qu'il aurait dû mettre de côté tous les ans une somme pour parer aux besoins de tous ces jeunes gens. « Nous avons fait notre possible, ajouta Jacob. Nous avons fait notre possible, ajouta Jacob, pour le détourner d'un projet si violent. Mais il n'y a pas eu moyen. Si vous aviez été ici, Miss Camilla, vous auriez plus fait à vous toute seule que nous tous ensemble. » Il appela Miss Lavinia et nous autres, et il défendit de dire un mot de tout ceci à sa chère petite fille, c'est-à-dire à vous, Miss, jusqu'à ce qu'il fût fixé quelque part commodément, parce qu'il connaît la sensibilité de votre bon cœur. Cette preuve de tendresse et de préférence marquée, dans un pareil moment, déchira l'âme de Camilla. « Oh, Jacob !» s'écria-t-elle, « où est mon cher et généreux oncle ? Cette chaise m'y conduira dans l'instant même. Je lui servirai de domestique, je serai sa garde-malade, je le veillerai jour et nuit. » Elle se hâta de monter dans sa chaise et dit à Jacob d'indiquer l'adresse au postillon. Mais lorsqu'elle entendit qu'il était à Essrington, en attendant qu'il eût trouvé une maison, elle perdit courage et versa un torrent de larmes. Jacob était resté seul pour garder la maison et la faire voir à ceux qui voudraient la louer. Miss Margland y était venue dans la matinée. Elle avait rencontré Sir Hugues, qui s'y était rendu pour emporter les effets qu'il voulait emporter. Elle lui avait remis une lettre d'Indiana et il lui avait pardonné. Mais il était fort mécontent que Miss Margland eût quitté Londres sans amener Miss Camilla. Elle s'excusa en disant que Miss Camilla était allée chez Mistress Bellamy à Belfond où elle n'avait point passé parce qu'elle jugeait qu'il serait mieux de retourner à Londres pour s'informer plus à fond d'Indiana et de ramener Miss Camilla au second voyage. Camilla se repentit vivement de n'être point retournée chez Mistress Burlington malgré sa répugnance et de n'y avoir pas attendu son rappel puisque ses parents supposaient qu'elle y était encore sous la surveillance de Miss Margland. Elle ne pouvait pas songer à se présenter devant eux dans ce moment de calamité dont elle se considérait comme une des principales causes. Elle demanda si, en passant la nuit à Clèves, elle pourrait espérer d'y voir le lendemain son oncle. Jacob lui répondit « Non, mais M. Tyrold doit venir de très grand matin avec un particulier de Winchester qui a envie de louer Clèves. » Une entrevue avec son père, à l'instant où il viendrait remplir une commission si pénible, lui parut impossible à soutenir. Elle résolut de retourner à Belfond, de consulter la réponse de Lavinia, et, en cas qu'elle n'en trouvât point, de retourner à Londres et d'y attendre patiemment, sans se fier davantage à ses projets ni à ses espérances. Après avoir fait à Jacob des excuses du retard de son paiement et l'avoir assuré que Sir Hugues serait informé de son bon cœur, elle dit au postillon de la conduire à Belfond. Il répondit qu'il ne pouvait pas aller plus loin qu'Alresford et au petit pas de ses chevaux. Jacob, surpris, lui souhaita mille bénédictions et Camilla sortit en disant douloureusement adieu à Clèves.